Nous sommes en compagnie de Bernard Alombert, qui a été comédien, metteur en scène et directeur de plusieurs lieux culturels, dont le Centre Dramatique National Le Grand Bleu à Lille, avant d'écrire pour le théâtre. Sa dernière pièce, Jeanne et Jean, parue aux éditions de L'Harmattan, met en scène un vieux couple dont la mémoire défaillante raconte en pointillé une vie dont on se demande ce qu'il reste en fin de partie. Alors Bernard Alombert, avant toute chose, on commence par une lecture d'extrait de Jeanne et Jean, et après on discute.
Avec plaisir. Alors c'est la scène 3, le banc, parce que ça passe de la cuisine au cimetière, et là nous sommes à l'intermédiaire, le banc. Jeanne, il fera beau, Jean, aujourd'hui. Jean, beau. Jeanne, peut-être pourrons-nous sortir. Jean, sortons. J'achèterai le journal. J'aime le journal. J'en ai besoin. Les nouvelles, comme ils disent. Quoi de neuf, au fait ? Rien ! Toujours rien, bien sûr. Toujours la même chose, cette absurdité quotidienne de voir le monde aller à l'abîme. Ils y vont à l'abîme. Même pas des moutons. Le mouton voit l'abîme. Il s'y précipite, mais avec dignité. Le ciel sur sa tête, le monde non, aveugle, des taupes. Juste leur petite galerie étroite, rien autour, juste un peu devant le museau qui fouille et toc, il tombe. Il fouille du museau pour avancer vers l'abîme. Je les hais. Je sais, il ne faut pas dire la haine, il faut la cacher au fond de soi, l'y laisser grandir, vous manger de l'intérieur. Mais non, je la dirai, je la hurlerai s'il le faut. Crier, je les hais. Le faut-il ? Je ne sais pas, mais j'en ai besoin. Est-ce trop tard ? Est-ce trop tard, Jeanne ? Tu ne sais pas, toi, ce que c'est que la haine. Sinon, peut-être me haïrais-tu ? Pourquoi ne me haïrais-tu pas ? Pourquoi ne haïrais-tu pas le monde ? Mais non, tu aimes le monde, Jeanne. Tu ne vois pas leur museau de taupe. Tu ne vois que sa fragilité, tu aimes sa fragilité au monde, sa foutue fragilité. Et toi, Jeanne, es-tu fragile ? Je devrais me poser la question. Me la suis-je jamais posée ? Oui, fragile, toi ? Non, quelle force il faut avoir pour ne pas haïr ! Quelle distance ! Tu l'as, toi, Jeanne, la distance. Elle te préserve, mais tu ne le sais pas. Jeanne, je ne le sais pas. Sortons, Jean.
Bernard Alombert, merci pour cette lecture. Et donc, du coup, on a un petit peu posé les choses. L'écriture, finalement, c'est une suite logique pour un comédien, un metteur en scène et un directeur de théâtre ?
Non, je ne sais pas du tout. Non, c'est une logique, un peu une suite logique pour moi, parce que j'ai toujours eu envie d'écrire, j'ai toujours écrit des choses depuis les poèmes d'adolescent, donc voilà, je me garderais bien de montrer aux gens. Mais non, ensuite j'ai fait beaucoup de traductions, parce que j'aime manier la langue, c'est un grand bonheur, j'aime lire dans plusieurs langues, et j'aime manier la langue, c'est vraiment un vrai bonheur la langue. Et donc j'ai fait de la traduction. La traduction, c'est formidable parce qu'il y a un auteur qui s'est arraché le ventre comme ça pour écrire, et puis soit on a juste le plaisir de trouver des équivalents dans la langue française, ce qui est un plaisir. On n'a pas la souffrance, parce que écrire, c'est quand même quelque chose de, c'est agréable, c'est une fois que c'est fait, mais il y a quand même un travail intérieur et il y a une souffrance, il faut le dire. Donc non, c'est plutôt mon parcours personnel que sinon tous les directeurs de théâtre
c'est bien ce qui me semblait
finiraient par écrire des pièces, c'est ça.
J'aime bien l'histoire de « une fois que c'est fait, c'est bien ». Je pense que tous les créateurs, là, les musiciens autour de la table tout à l'heure nous diront peut-être la même chose. Une fois que c'est fait, c'est bien, mais quand il faut le faire, c'est un peu plus compliqué. Vous traduisiez de quelle langue ?
Ben, j'ai commencé avec l'italien il y a très longtemps par hasard, parce que c'est-à-dire une compagnie italienne que j'avais vue en italien, et je voulais les accueillir, et moi je leur ai dit faut venir jouer en français, c'est possible, mais ils ont fait traduire ça par un universitaire, une traduction absolument merveilleuse, parfaite, enfin, mais injouable sur scène. Donc au dernier moment j'ai fait cette traduction-là, puis ensuite bon, j'en ai fait plein pour d'autres compagnies italienne, et puis je fais aussi deux, trois pour sur des textes anglais de John Retallack, par exemple. Voilà, et puis bon, j'en ai fait beaucoup. C'est aussi un apprentissage de l'écriture, parce qu'on se heurte à des styles qui sont pas du tout ce qu'on voudrait faire. Donc il faut trouver des solutions. Et je suis très sensible à la forme quand j'écris. Je dirais que c'est j'ai pas de projet à l'avance en général. Hein. C'est quelque chose qui vient comme ça ou qui vient pas d'ailleurs. C'est pas la même que je me mette devant un papier blanc si je sens pas quelque chose qui est venu ou s'il y a une idée qui est venue et qu'il faut mettre sur le papier. Et donc voilà, il y a une sorte de force, de choses intérieures qui de temps en temps alors on écrit et puis alors on relit, on dit tiens, bah finalement c'est moi qui ai écrit ça, c'est pas si mal que ça, et on peut essayer de s'auto-psychanalyser, je ne sais pas, il faut éviter, je crois.
Et puis sinon la traduction, c'est extrêmement formateur parce qu'on a les mots des autres et on est obligé de trouver les siens.
C'est très formateur, et puis en plus c'est un compromis permanent entre la forme et le sens. Il n'y a jamais de solution parfaite. Bon, de temps en temps si, alors c'est génial, mais c'est toujours une trahison quelque part, hein, donc il faut vraiment essayer de trouver, faire une recherche à chaque fois pour essayer de trouver comment ça ressemble vraiment à la phrase qui est là, et en même temps ça dit la même chose. Alors, tantôt on tombe d'un côté, tantôt on tombe de l'autre, mais c'est un vrai plaisir en tout cas.
Alors on vous a connu plutôt inspiré par l'actualité, comme dans Charlie et Nemo, qui abordait le problème des enfants soldats. Et puis vous voilà racontant l'histoire d'un vieux couple. Là, c'est quand même le grand écart. Pourquoi vous avez choisi ce sujet ?
Oh, j'ai pas choisi. Hein. C'était l'automne
sujet qui vous a
à la
choisi.
Maison. voilà, j'étais pas dans un état psychologique d'une grande, grande gaieté. Et puis il y a mes beaux-parents. Hein. Qui ont 96 ans, tous les deux, qui n'ont rien à voir avec... ma belle-mère s'appelle Jeanne, mais ils n'ont rien à voir avec Jeanne et Jean, je le dis tout de suite. Mais ils ont 96 ans, ils sont là tous les deux, ils sont en bonne santé, ils sont indépendants, ils sont... Voilà. Et bon, là-dessus est parti dans ma morosité un peu du moment, et puis leur présence sur ce qu'est-ce qui se passe quand la fin de la vie arrive et que... On n'est pas malade, c'est-à-dire que effectivement, en général, beaucoup de gens meurent parce qu'ils sont malades et ils meurent. Mon père est mort à 86 ans, mais à 86 ans, si on n'est pas malade, on ne meurt pas. Donc, il y a un moment donné où on se dit, mais ils sont pas malades, ils sont pas malades, et malgré tout, il y a quelque chose d'inéluctable là derrière. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose de très très curieux, assez terrible à imaginer. Et puis en même temps, il y a aussi ça, le fait que bon, là, on est dans une troisième vie, hein, puisque nous sommes en vacances perpétuelles maintenant. Après, il y a aussi qu'est-ce que c'est que le passé ? Qu'est-ce que ce qui est passé quelque part, dit Jean. Est-ce que ça a existé ? Enfin, quelle existence ça laisse dans la tête, dans les traces de ce qu'on a fait ? On a fait tout ça, voilà. On a passé 20 ans dans ce grand bleu à accueillir des centaines d'artistes, à faire des choses absolument merveilleuses. Puis un jour, on s'en va et voilà, et on fait autre chose aujourd'hui. La vie est remplie de façon formidable, mais qu'est-ce que ça veut dire quand la vie avance comme ça, les choses qu'on a faites, qui sont passées, quelles existences elles ont ? Elles n'en ont plus d'autres que celles que peut-être on peut soi-même leur donner ou imaginer.
Tout à fait. Alors quand on lit Jeanne et Jean, on voit bien qu'ils se souviennent, mais finalement ils se souviennent de quoi ? Pas forcément de ce quoi on s'attend de se souvenir d'une vie.
Non, pas forcément du tout. Pas forcément du tout. Ça, c'est assez...
Des petites choses.
Troublant, oui. Oui. Tout à fait.
Des petits détails, pas les grands événements de la vie forcément, mais...
Non, ça peut être effectivement des tout petits détails, ça peut être des phrases comme ça, moi j'ai des souvenirs comme ça de choses tout à fait insignifiantes, mais qui, je sais pas, qui restent au bout de 30, 40, 50 ans. Donc je crois que la vraie perception de la vie qu'on a, elle est pas sur... On peut raconter sa biographie. Hein,
bon, officielle, bien sûr.
Ouais, comme tout le monde, j'ai une biographie officielle, bon, c'est, voilà. Mais ça n'a pas grand... Quel rapport ça a avec son vécu personnel? Au fil des années, je pense que ça, c'est très menteur. Enfin, une biographie officielle, c'est une trace comme ça des choses qui n'est pas le vécu. Quand on en est à assumer son vécu, ce qui est derrière, c'est tout à fait une autre aventure.
Alors justement, personne n'a la réponse de ce qui reste d'une vie. Après, comme vous dites, 90 ou même 100 ans, d'ailleurs aujourd'hui il y a plein de centenaires, qu'est-ce qui reste d'une vie finalement?
Ben, je ne sais pas, mais je crois que ça dépend de chaque individu. Il y a des gens qui vivent dans l'instant et qui finalement prennent chaque instant l'un après l'autre sans se préoccuper de savoir ce qu'il y a avant. Et il y a ceux qui trimballent l'ensemble de leur existence là, depuis tout le temps ou certains moments de leur existence. Je ne sais pas, moi je ne crois pas qu'il y ait de... Je vois bien que d'autres personnes ne vivent pas ça comme moi et qu'il y a une réponse sûrement personnelle à chaque bilan qu'on peut faire de sa vie moment donné.
Mais quand on lit Jeanne et Jean, on a l'impression que le passé est trop lourd à porter. Il est tellement lourd qu'il obscurcit le présent.
Ah là, il est très très... Oui, le passé de Jean. Alors Jean, oui. Lui, voilà, Jean, lui, a un passé très très lourd à porter. Il a été très déchiré par plein de choses. Il a des rapports avec sa mère qui ont été extrêmement compliqués. Une mère dont on ne peut pas prononcer le nom. Un père qui a visiblement souffert de la façon dont... des problèmes psychologiques de sa mère. Il a eu un passé très 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 complexe. Et il en est sorti comme ça par une volonté de dire toujours j'avance, je maintiens, je suis un homme dur, tac tac, la nature, il faut pas céder, il faut avancer, il faut... Bon, mais derrière ça il y a des fragilités. Et Jeanne, c'est le contraire, elle, c'est quelqu'un qui au contraire aime la vie et est capable d'apprécier la vie, de ne pas voir les moutons qui vont à l'abîme, là, le monde qui va à l'abîme, et de voir au contraire la beauté de flocons de neige qui tombe et qui dit très très belles choses à la fin sur... Je trouve, c'est bizarre
oui,
de
c'est
dire
vrai,
très belles choses parce
si,
qu'on
si.
Les a écrites. Mais une fois que j'ai maintenant que j'ai écrit pas. Ça depuis longtemps et que j'ai deux autres pièces en route, je sais pas, je le lis plus comme
oui,
ma pièce
avec
à
détachement.
Moi. Oui, c'est devenu un texte voilà que je lis. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est pas. Donc je le lis avec détachement. Oui, et elle dit de belles choses, je trouve ensuite sur leur couple, enfin.
Eh ben, on peut l'écouter là.
Il faut que je retrouve.
En tout cas, pendant que vous cherchez, je peux dire que Jeanne apparaît beaucoup plus positive, en tout cas, que Jean, et puis que Jean ne sait pas vivre au présent. Et comme il ne sait pas vivre au présent, ben il a l'air malheureux quand même, ce Jean.
Ah, il est torturé. Oui, oui, tout à fait. Il est torturé. Il est torturé en permanence. Je ne sais pas si je vais retrouver l'endroit, mais elle dit « J'aime cette ride sur ton œil ou sur ta joue. Je connais l'histoire de chacune des rides de ton visage. » Parce qu'effectivement, bon, on est un peu ce qu'on devient. Donc voilà, elle lui dit de belles choses. Elle lui dit de belles choses que je ne retrouve pas.
Vous l'aurez retrouvé, mais de toute façon, on va écouter. On va venir le 18 octobre au Café Livre et on écoutera la pièce. En tout cas, sinon dans son entier, en tout cas un peu plus longuement.
Je choisirai cet extrait-là, voilà.
Voilà, exactement. Alors, ce qui m'a frappé, moi, c'est qu'il n'y avait pas du tout de dialogue entre eux, mais c'est un enchaînement de monologues. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'ils ne se... est-ce qu'ils s'entendent vraiment ?
Oui, c'est deux monologues un peu croisés, mais peut-être qu'ils sont arrivés. Ils sont juste avant
ils
de partir.
Ils sont trop tard.
C'est-à-dire qu'en fait, ils sont à un moment. Ils meurent d'ailleurs à la fin. Enfin, ils disparaissent.
Ah, ça, il fallait pas le dire. On connaît la fin. Oui.
Ils sont à un moment où il y aura plus rien à vivre. Ils sont à un moment où il y a plus rien à vivre de toute façon. Voilà, c'est ce moment-là où quoi qu'il en soit, il y a plus rien à vivre. Donc à partir de là, est-ce qu'on n'est pas très seul quand on arrive à ce moment-là ? Est-ce que de toute façon, même si on a vécu avec d'autres gens, est-ce qu'on ne devient pas très très seul au moment où de toute façon il y aura plus rien à vivre ? Puisque bon, le couple se bâtit dans ce qu'il fait ensemble, et peut-être autant que de ce qu'il a fait avant, enfin les deux, mais là il n'y a plus rien à vivre. Donc effectivement, il monologue, et puis de temps en temps ça se croise, ou très concrètement, sortons pour le journal, puis après chacun part dans son monologue. Et il y a deux, trois endroits où tout d'un coup ça se répond quand même un petit peu, mais non, c'est deux solitudes juste avant la grande fin, sans qu'aucun d'eux d'ailleurs n'évoque une possibilité de quoi que ce soit. Après, enfin...
Oui, non, la vie éternelle n'est pas évoquée, non, ça faut
non,
autant le dire tout de suite.
Il y a bien le plaisir de Jeanne d'aller sur les tombes, comme ça, et de voir ses parents, mais...
Alors, puisqu'il n'y a pas de présent, et pourtant Jean dit une très belle phrase, je trouve, « L'éternité, quel ennui, l'instant, voilà l'éternité. » Alors, là, il nous montre quand même un chemin, et du coup, lui, il est positif, là.
Oui, parce qu'il essaye. C'est-à-dire qu'effectivement, il comprend bien que tout ce qui trimballe derrière lui, ça lui pèse. Et qu'il essaie de lutter contre ce poids permanent en disant le contraire. C'est-à-dire qu'il semble d'oublier ça et de vivre très très fortement chacun des instants l'un après l'autre. Alors le problème, c'est qu'il se fait un peu piéger parce qu'en vivant les instants l'un après l'autre, finalement, une fois qu'un instant est passé, on a l'impression que l'instant d'avant a disparu. Et que par conséquent, il n'a pas de vraie solution. Parce que oui, bien, il vit ses instants un par un, et dès qu'un est passé, c'est comme s'il avait mangé l'autre, et le passé a disparu, ou alors il le traîne comme ça, comme un poids sur ses épaules. Donc il n'a pas de vraie solution, lui.
Mais personne d'ailleurs, parce que c'est la grande affaire de notre vie, c'est ça, c'est quoi faire avec le temps.
C'est quoi faire avec le temps, oui. Jeanne, sentir mieux, elle, parce qu'elle a une espèce de, comme ça, de distance un peu sympathique et décontractée, enfin, davantage avec la réalité, même que si c'est une femme, c'est une maîtresse-femme, enfin, hein, c'est pas... Elle a l'air gentille, comme ça, hein. Il parle, lui, de sa fragilité, elle se dit « Oh, je suis une petite femme fragile », c'est pas vrai du tout, c'est une femme tout à fait très forte.
Pour employer un mot à la mode, elle s'est lâchée prise. Alors, la vieillesse, c'est... Moi, j'ai eu l'impression, en lisant ce livre, que c'était ne pas regarder devant soi parce qu'il y avait le vide, et que du coup, comme on ne pouvait pas regarder devant puisqu'il y avait le vide, il fallait regarder derrière pour continuer à avancer.
Oui, mais si on regarde trop derrière, je crains qu'on n'avance plus, donc il faut...
Oui, la problématique de la vieillesse.
Oui, donc il faut faire des projets et continuer à faire des projets et à faire des choses. Mais en même temps, effectivement, plus le temps passe, plus on a... Enfin, on a, je ne sais pas, moi, je dis on a... J'ai une perception, justement, de ça qui se... dont la contradiction est de plus en plus forte. C'est-à-dire qu'effectivement, à la fois, ce qui est passé commence à disparaître un petit peu dans un passé. Ça a l'impression d'être une autre vie qu'on a vécue, peut-être, mais bon. Et puis,
peut-être.
Oui, peut-être. Enfin, si, on l'a vécu, mais qu'est-ce que concrètement il en reste. Et puis, si en même temps, on sait que l'avenir, de toute façon...
on connaît la fin. Oui.
On le connaît. D'abord, on connaît la fin. Et puis ensuite, il se rétrécit aussi un peu. Quand même, malgré tout, par rapport à... Voilà, donc j'ai envie de dire, là, c'est des jeunes qui sont dans le studio, là, profitez-en quand même, parce que il n'est de vrai beau que la jeunesse.
Comme ça me semble un excellent conseil, surtout que finalement, on a l'impression qu'on se promène dans cette pièce au milieu de l'absurde, parce que c'est la réalité, mais cette réalité, elle est absurde. Mais bon, il faut l'accepter.
La condition humaine est absolument, une des plus épouvantables choses qui ait jamais existé.
Bon,
absolument.
Eh bien, on attend de voir ça sur scène, en tout cas. Un de ces jours. Sinon, Bernard Alombert, merci. On vous retrouve le jeudi 18 octobre à 18h au Café Livre, dans le Vieux Lille. Non, j'avais dit Vieux Livre tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est aussi un café bouquiniste. Mais voilà, je m'étais un peu... Donc vous y lirez des extraits de Jeanne et Jean, cette dernière pièce parue chez L'Harmattan. Et vous nous avez même dit que vous aviez déjà deux autres pièces sur le feu.